VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En République démocratique du Congo, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déploré lundi à Kinshasa que l'armée et d'autres agents de l'État congolais commettent encore la plupart des violations des droits de l'homme en RDC. Je lance mon appel à l'État pour que ces violations cessent, a déclaré hier l'ex-président du Chili au dernier jour de sa visite en RDC. Madame Bachelet a réclamé des mesures pour endiguer les exactions commises par l'armée nationale congolaise en particulier. Dans un entretien à la radio onusienne Okapi, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a aussi rencontré le président Félix Tshisekedi, investi à la tête de l'État congolais il y a un an, le 24 janvier 2019. République centrafricaine, rien ne m'empêche d'être candidat. Déclaration hier de l'ancien président centrafricain François Bozizé au sujet de la présidentielle de 2020 dans le pays. L'ex-chef de l'État, rentré récemment d'exil, tenait sa première rencontre avec la presse. Les détails avec Bagassi Koura.
Rien ne m'empêche selon les textes officiels. Cela dépend de mon parti. C'est le congrès qui désigne les candidats, a fait savoir M. Bozizé sans donner plus de détails sur ses intentions en moins d'un an de la présidentielle prévue en décembre. L'ex-chef de l'État est toujours sous le coup des sanctions des Nations Unies pour son rôle dans la crise de 2013, une crise marquée par de violents affrontements entre des populations chrétiennes et musulmanes. Il est accusé d'avoir soutenu des milices anti-Balaka. Les événements concernant les anti-Balaka se sont déroulés en mon absence et tout le monde le sait, s'est défendu l'ancien chef de l'État, précisant qu'il allait demander aux Nations Unies que son cas soit étudié pour mettre fin aux sanctions qui pèsent sur lui. Revenu en Centrafrique, François Bozizé a demandé solennellement pardon pour, je cite, toutes les erreurs commises et tous les torts commis aux uns et aux autres et qui auraient pu résulter de mon action à la tête du pays. Le 14 janvier, l'ancien chef de l'État avait été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection. Un tête-à-tête qui n'a pas complètement dissipé les tensions entre le parti de François Bozizé et la majorité présidentielle.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, la justice malienne a ordonné ce mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en mars 2012 et détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats anti-putschistes après son coup de force. La cour d'appel de Bamako a également décidé la mise en liberté provisoire de la douzaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. L'ex-leader putschiste va recouvrer la liberté alors que l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. La décision de la cour était attendue comme susceptible de désamorcer de possibles tensions que causerait une éventuelle reprise du procès. Amadou Sanogo est l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012 du pouvoir. L'ex-leader putschiste en détention depuis fin 2013 après avoir cédé le pouvoir est jugé avec ses co-accusés pour leur implication présumée dans la mort de 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges, qui avaient vainement tenté un contre-pouche un mois après le coup d'État avant d'être pourchassé par les putschistes. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Burkina Faso, une attaque djihadiste de grande ampleur contre le village de Silgadji, province du Soum, dans le nord du pays, a fait de nombreux morts. Le bilan est difficile à établir car ce sont des chiffres avancés par les personnes ayant fui la localité. On parle de 10 à 30 morts, a affirmé à l'AFP une source sécuritaire. Des habitants de Silgadji ont fui leur commune et sont arrivés dimanche à Bourganza, également dans le nord. D'après les survivants qui ont fui, les attaques ont eu lieu depuis samedi dernier. Les djihadistes ont encerclé les populations au marché du village avant de les séparer en deux groupes. Les hommes ont été exécutés et les femmes sommées de quitter le village. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, la France a exhorté les États-Unis lundi à maintenir leur soutien militaire aux efforts anti-djihadistes de Paris dans la sous-région, sans toutefois recevoir de garantie de la part de Washington. Le soutien américain à nos opérations est d'une importance cruciale et sa réduction limiterait gravement l'efficacité de nos opérations contre les terroristes, a déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly, à l'issue d'une rencontre au Pentagone hier avec le ministre américain de la Défense, Mark Esper. Aucune décision n'a encore été prise, a souligné pour sa part le chef du Pentagone.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président du Bénin, Patrice Talon, est en visite à Washington où il doit rencontrer nombre de responsables d'institutions financières. Plusieurs autres rendez-vous sont inscrits à son programme. Irénée Amanoumbo a obtenu les précisions suivantes avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonci.
Et nous sommes là pour une visite de travail, on va dire, dans le cadre d'un exercice normal de la diplomatie du président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir. Nous sommes là dans le cadre de la consolidation de nos relations avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds, de même que la SFI. Mais nous sommes là aussi pour nos relations bilatérales avec le gouvernement américain. Vous savez que le Millennium Challenge Corporation accompagne le Bénin quelques années maintenant dans des projets de développement, des projets structurants. Et au moment où nous arrivons au terme du deuxième compact, il était utile que le président vienne aussi échanger avec les autorités de cette institution nationale et aussi échanger au plan bilatéral avec les autorités américaines.
Parlons justement d'institutions financières. Le président va rencontrer plusieurs responsables de ces institutions, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Bénin serait-il en déficit qu'il peine à combler?
Non, pas du tout. Nous n'avons pas de déficit. Au contraire, le Bénin a une croissance qui aujourd'hui est au-dessus de 6%. Celle qui est annoncée pour cette année pourrait tutoyer les 7%, pourquoi pas. Non, nous sommes en bonne santé financière. Maintenant, sur notre plan, bien sûr que nous sommes un pays qui améliore sa capacité d'absorption des facilités financières qui sont disponibles. Et parce que nous avons beaucoup de projets, nous sommes aussi dans une dynamique de mobilisation de ressources. Et c'est ce qui justifie aussi les entretiens que nous allons avoir avec la Banque mondiale.
Les États-Unis sont à l'avant-plan de la lutte contre le terrorisme dans le monde. Le Bénin a des voisins victimes d'attaques terroristes. Donc la menace est permanente. La question sera-t-elle abordée puisque le président doit rencontrer votre homologue américain Mike Pompeo?
Il est clair que nous ne sommes pas du tout indifférents au phénomène du terrorisme. Ce qui se passe dans la partie septentrionale ou à l'est de notre pays, dans le pays qui est à l'est, le Nigeria pour ne pas le citer, et le nord, le Niger et le Burkina, ne nous laisse pas indifférents. Donc la question du terrorisme sera sûrement abordée. Et ce qu'il s'agit ici de faire, c'est de voir comment on peut faire converger les intelligences entre nos pays, converger les stratégies et améliorer tant que l'on peut les voies et moyens de lutter contre ce phénomène-là.
Aurélien Agbenonci, ministre béninois des Affaires étrangères. Et pour terminer l'actualité américaine, ici à Washington, les avocats du président Donald Trump ont tenté lundi de reprendre l'offensive après les révélations explosives d'un ancien conseiller de la Maison-Blanche qui ont fragilisé la défense du président américain dans son procès en destitution devant le Sénat. La défense du chef de l'exécutif et les avocats en particulier se sont lancés dans une attaque en règle contre l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans sa plaidoirie, la défense de Donald Trump a affirmé que la destitution était une arme thermonucléaire trop dangereuse pour s'appliquer en l'absence de crime au sens pénal du terme. Le célèbre constitutionnaliste Alan Dershowitz, dernier à plaider lundi, a fait valoir qu'il n'y a pas eu de pression sur Kiev ou de donnant-donnant. Une stratégie fragilisée par les révélations de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Dans un livre à paraître prochainement, M. Bolton affirme que Donald Trump lui a confié en août ne pas vouloir débloquer l'aide militaire destinée à l'Ukraine sans enquête sur les Biden. « Je n'ai jamais dit ça à John Bolton », a démenti le locataire de la Maison-Blanche en accusant son ancien conseiller, limogé en septembre, de vouloir vendre son livre. Les avocats de Donald Trump ont aussi tenté de démontrer qu'il était dans son droit en s'inquiétant d'une possible corruption des Biden en Ukraine. L'ancienne procureure de Floride, Pam Bondi, a relevé qu'Hunter Biden avait gagné des millions de dollars en siégeant au conseil d'administration du groupe gazier ukrainien Burisma, au moment où son père, alors vice-président de Barack Obama, était chargé de la politique américaine dans ce pays. Elle a également suggéré que M. Biden avait obtenu le limogeage du procureur général ukrainien, alors chargé de la lutte anticorruption, pour protéger l'employeur de son fils.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.